Catherine Cornaro, fille d'une grande famille vénitienne, a épousé Jacques de Lusignan, roi de Chypre, en 1472. Après la mort de son mari, un an après, elle est devenue reine de Chypre à son tour. Elle a vécu dans l'île jusqu'en 1489, c'est-à-dire au moins pendant 15 ans. À son retour à Venise, elle a reçu le territoire d'Azzolo dans la région de Trévise, où elle a formé autour d'elle une cour d'artistes et d'écrivains. Ce sont ces deux périodes de sa vie que j'ai appelées les deux vies de Catherine Cornaro. Après sa mort en 1510, son personnage s'est transformé en une légende. Pour tracer le profil de Catherine, nous avons en réalité à disposition peu de faits historiques et peu de sources iconographiques contemporaines. Peu de traces en vérité, en regard de la quantité d'images et de récits qui ont constitué le mythe de Catherine. La République de Venise a donc produit une reine. Reine d'un petit royaume, mais territoire important par sa situation en Méditerranée. Je vous ai mis la carte du commerce en Méditerranée au Moyen-Âge. Donc vous avez Chypre qui est ici. Et vous voyez que Chypre est sur la route de la soie et de toutes les escales en Égypte, à Tripoli et en Europe, à Venise, Gênes, Aigues-Mortes, ça c'était pour la France, hein, et puis les Catalans à Valence. Alors, Chypre. Chypre, donc, a deux ports importants, Famagouste et Kyrinia. Et Nicosie, c'est là. Je vous situe un peu l'île. Alors, donc, cette île a été donc un carrefour important dans l'Antiquité. En plus, cette île, comme son nom l'indique, possédait de grosses mines de cuivre. Et le cuivre, c'était donc important pour faire du bronze. Donc, cette île a été conquise par pratiquement toutes les civilisations antiques. Et jusqu'aux Byzantins qui ont pris l'île. Donc, l'île était grecque, de langage grec. À partir de la première croisade, Chypre est une escale importante, je vais vous remettre la carte, pour aller en Terre Sainte. La Terre Sainte, c'est là, hein, vous avez Saint-Jean d'Acre, là. Donc, Pise, Venise, Gênes sont prenantes pour faire le commerce et pour ravitailler les croisés là-bas. Elles ont porté donc les troupes, le ravitaillement, pour les croiser. À la troisième croisade, Richard Cœur de Lion débarque sur l'île et prend l'île aux Byzantins. Sachant pas quoi en faire, il la revend aux Templiers. Les Templiers n'en veulent plus. Richard Cœur de Lion la revend à Guy de Lusignan, qui était roi de Jérusalem et qui venait de se faire chasser de son royaume par ses féodaux. Donc, les Lusignans deviennent roi de Chypre, de Jérusalem et d'Arménie. C'était le titre des rois lusignans. L'île, au début du XIVe siècle, était très prospère. Après la chute de Saint-Jean d'Acre, tous les croisés sont venus sur l'île et ont fait du commerce. Il y avait les Phéniciens, les Génois avaient des comptoirs à Famagouste et faisaient beaucoup de commerce. Puis, le déclin de l'île est arrivé parce que les Lusignans étaient des très mauvais gestionnaires. Ils pensaient que c'était vraiment des féodaux et ils pensaient qu'à donner des terres aux gens qui étaient de leur parti, ils ne s'occupaient pas de mettre l'île en valeur. En plus, les Génois ont débarqué et ont occupé Famagouste tout en détruisant, en saccageant l'île. Ensuite, le roi Mamelouk du Caire, il y a Alexandrie mais le Caire. Alors le sultan Mamelouk s'est battu contre les Lusignans. Les Lusignans ont perdu la guerre et les Lusignans sont devenus vassaux du sultan. Donc l'île continue à décliner. Les marchands vénitiens prennent de plus en plus d'importance. Les rois sont complètement ruinés. Et les Vénitiens demandent de l'argent à tout le monde, hein, et particulièrement à Venise. Alors, pendant ce temps-là, dans cette île qui est grecque, l'église latine s'implante. C'est l'époque des grandes cathédrales de Chypre. Il nous reste Sainte-Sophie de Nicosie, vous voyez, des belles cathédrales gothiques, qui est devenue une mosquée, hein, avec, vous voyez, les deux minarets, avec l'intérieur de la mosquée. Ensuite, à Famagouste, on a Saint-Nicolas, qui est tout à fait l'église classique. D'ailleurs, ce sont des ouvriers français, hein, qui sont venus pour construire toutes ces églises. Et ensuite, il y a des prémontrés qui ont fait une abbaye, dont il reste de très beaux restes. C'est à côté de Quirinia, c'est-à-dire c'est dans le nord de l'île. On a une église et le cloître. Bon, alors nous arrivons au règne de Jean II. Jean II, c'était le père du mari de Catherine. Alors, Jean II a d'abord fait un fils bâtard qui s'appelait Jacques, le futur mari de Catherine. Puis il s'est marié avec une grecque qui s'appelait Hélène Paléologue et dont il a eu une fille, Charlotte. Sous son règne, dont Chypre est presque ruinée, il y a des mauvaises récoltes, il y avait des invasions de sauterelles, hein, qui prenaient toutes les récoltes, le trésor est vide, donc il emprunte à Venise et aux marchands vénitiens de l'île. Jacques, son fils, est nommé par son père évêque de Nicosie. Le jeune homme n'avait pas la vocation, prit part au complot de la cour, fit assassiner des proches de la reine. Dans un premier temps, après ses crimes, il doit fuir à Rhodes. Il se réconcilie avec son père, qui va en faire son héritier, mais Jean II meurt. Donc c'est sa fille Charlotte, qui avait épousé entre-temps Louis de Savoie, monte sur le trône en 1458. Se voyant mis à l'écart par la reine, Jacques se réfugie auprès des Mamelouks. Il fait tant et si bien, il intrigue. Et il revient à Chypre avec un détachement de Mamelouks et prend le contrôle de l'île. Il chasse sa sœur qui se réfugie à Quirinia et qui en est chassée et qui se réfugie à Rhodes. Et donc Jacques II devient roi en 1460. Les débuts du règne de Jacques II, c'est compliqué, mais je suis obligée de le faire pour avoir, disons, le contexte de Catherine. Hein. On en parle très peu de Catherine, vous allez voir. Les débuts du règne de Jacques II, donc, sont consacrés à reprendre l'île. Il chasse les Génois de Famagouste, il se débarrasse des Mamelouks, il chasse chasseurs. Mais il vit comme un soudard, hein. Il passe son temps à la chasse et à courir les femmes. Il avait trois bâtards qui vivaient à la cour avec sa maîtresse. C'était vraiment l'époque féodale à Chypre, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors qu'à Venise, on est presque à la Renaissance, là, on est vraiment encore en plein Moyen-Âge. Hein. Alors donc, quand il a chassé sa sœur, il a pris les terres des féodaux de sa sœur, il les a données à ses féodaux lui-même. Enfin, vous voyez, c'était vraiment la violence, enfin, sans arrêt, quoi. Donc, ben Jacques II, vu l'état de ses finances, essaie de trouver de l'argent. Il ne peut pas demander à Gênes, qui vient de chasser de Famagouste, il ne peut pas demander au pape qui soutient Charlotte, donc il se tourne vers Venise. Et en même temps, il dit, ben, pour resserrer les liens, je pourrais peut-être me marier avec une Vénitienne à ce moment-là. Alors donc, voilà le marié. Maintenant, la mariée. Alors, Venise et la famille Cornaro. Alors, donc, Venise, je vais faire le point à la naissance de Catherine. Hein. Catherine, c'est en 1454 qu'elle est née. Donc, c'est une ville prospère qui fait du commerce avec l'Orient. Alors, tiens, je vais vous montrer Jean II. Vous voyez, ça, c'est Charlotte. Jacques II, ça, c'est une monnaie. Hein, c'est pas... Et voilà les possessions de Venise. À peu près au milieu du 15e siècle. Alors donc Venise avait tous les comptoirs le long des Balkans, à la moitié de la Grèce, l'île de Crète, l'île de Négrepont c'était l'île de Bé, des comptoirs en Asie mineure, des comptoirs à Chypre, des comptoirs à Constantinople et même au bord de la mer Noire, vous voyez. Donc c'était vraiment une période de grande prospérité. Seulement en 1453, vous savez que les Ottomans ont pris Constantinople. Donc à ce moment-là, on a quand même la menace ottomane qui se fait jour sur tout ce coin de la Méditerranée. Venise se veut se diriger sur la terre ferme. À ce moment-là, Venise se heurte au duché de Milan. François Sforza lutte contre Venise, enfin ils font une guerre. Sforza perd la guerre et est obligé de concéder la frontière sur l'Adda. L'Adda, c'est à peu près au niveau de Crémone. Donc on a tout ça et Venise s'est installée dans la terre ferme. Venise, avec la menace ottomane, est bien contente d'avoir une place forte à Chypre. Donc, elle est tout à fait d'accord pour faire un mariage avec une Vénitienne. Les Cornaros, on va parler des Cornaros maintenant, étaient implantés à Chypre depuis pas mal de temps. Ils avaient des propriétés, ils avaient des comptoirs, et les Cornaros s'étaient enrichis évidemment en armant des bateaux faisant le commerce du sucre et des épices avec l'Orient. Andrea Cornaro, l'oncle de Catherine, après avoir fait quelques malversations, avait été exilé à Chypre. Un exil tout à fait relatif puisque les Cornaros étaient chez eux à Chypre, hein, pratiquement. Il avait prêté beaucoup d'argent à Jacques II, qui ne pouvait évidemment pas rembourser. Et il était devenu un conseiller du roi, et assez influent. Marco, le père de Catherine, était donc très riche, avait aussi des terres à Chypre, hein, pas mal, et faisait du commerce. Ils avaient un magnifique palais. Là, c'est le palais maintenant, il s'appelle Corner de la Regina. Vous avez la Cadoro là pour situer et le Rialto qui est là. C'était dans la paroisse de San Cassiano. Alors le palais Corner de la Regina que nous voyons maintenant, ce n'était pas le palais de Catherine. Hein. Il avait été incendié en 1532. Il a été reconstruit, puis reconstruit au XVIIIe siècle. Et c'est le palais que nous voyons maintenant qui a été construit par Domenico Rossi, l'architecte. Alors, lorsque le roi de Chypre demande l'alliance de Venise, tout le monde est d'accord. Andrea Cornaro, à Chypre, combine le mariage avec sa nièce, Katrina, qui avait alors 14 ans. Venise accueillit favorablement la proposition, et le mariage fut célébré en 1468, c'est-à-dire très tôt, puisque la demande avait été en 66. Le Sénat décréta que Catherine serait adoptée par Venise et intronisée fille de la République, et que sa dot serait très importante. Et c'était évidemment des manœuvres politiques, parce que la République deviendrait héritière de Chypre si Catherina venait un jour à disparaître sans héritier. Jacques II offrait à Venise les droits et des privilèges sur Famagouste et Quirinia, mais surtout, ce contrat fixait l'ordre de succession au trône de Chypre. Si Jacques II mourait, sans héritier mâle légitime, la couronne reviendrait à sa veuve et à la mort de celle-ci à la République. Donc, bon point pour la République. Catherine, alors, parlons enfin de Catherine, la pauvre. Catherine a été élevée jusqu'à ses 14 ans au monastère des Bénédictines de Padoue. À cette époque, un mariage était la règle, de convenance était la règle, on ne demandait pas l'avis des fiancés. Hein. Sur une médaille du musée Correr, j'ai trouvé un profil de Catherine jeune, mais elle est jolie, hein, elle a un joli profil, elle a des jolis cheveux, des boucles d'oreilles, enfin, c'est évidemment un portrait idéalisé, hein, c'est pas un portrait réel. L'inscription, c'est Caterina Cornelia qui prit Regina. Alors, son mariage par procuration fut célébré en grande pompe par le doge pour honorer la famille Cornaro, surtout pour honorer Venise. Alors là, c'est un tableau 1847, hein, c'est un tableau du musée Correr. Alors, vous voyez Catherine avec le doge et l'ambassadeur de Chypre, puisque c'est un mariage par procuration. Alors, il se passa 4 ans avant que Catherine ne parte à Chypre pour rejoindre son époux. Car après le mariage par procuration, le roi ne donne plus signe de vie. À la cour de Nicosie, le roi est entouré d'une coterie de Catalans, de Napolitains, de Siciliens qui voudraient qu'il échappe à l'influence de Venise et casser le mariage. Le roi de Naples, Ferdinand Ier, voudrait mettre la main sur l'île et lui propose sa fille en mariage. Jacques II n'arrive pas à se décider, il a besoin d'argent évidemment, et prend le prétexte du jeune âge de Catherine pour ne rien faire. Cependant, des difficultés politiques avaient atteint Venise. Mehmet le Conquérant décidait d'éliminer l'Empire de Venise. Il lève une flotte et une armée puissante. Les autres États de l'Italie refusent leur aide parce qu'à ce moment-là, Venise était en bisbille avec tout le monde à cause des enjeux commerciaux, évidemment. Venise construit à la hâte des bateaux, mais ça n'empêche pas le sultan de s'emparer de Négrepont, donc de l'île de Bé. La flotte vénitienne qui devait défendre la ville était mal dirigée, s'est enfuie, la ville est pillée, ses habitants massacrés, mais vraiment massacrés, hein, ça a été horrible. Chypre est directement menacée, le roi n'hésite plus à se tourner vers Venise, d'autant plus qu'il est encore dans une situation catastrophique. Le Sénat de Venise veut bien l'aider, mais à condition que le mariage se fasse. Alors j'ai beaucoup insisté sur la situation internationale, mais enfin ça a une grande importance sur les événements futurs. Alors Catherine à Chypre, elle arrive à Chypre enfin. Alors la source la plus fiable pour retracer la vie de Jacques II et de Catherine à Chypre, la chronique de Georges Boustronios. C'est un grec qui naît dans les années 1430, qui entre au service de Jacques II. Et c'est avant tout un chypriote, son témoignage est rédigé en dialecte grec-chypriote. Heureusement qu'il y a une traduction anglaise sur Internet. Hein. Donc, il part d'un point de vue local. Il cite les événements sans tenir compte de leur importance, sans analyse, sans commentaire. Mais c'est pas mal. Ensuite, comme deuxième source, fiable, on a les 3 tomes du livre de Louis Mas de Latry, L'histoire de Chypre sous le règne des princes de Lusignan. C'est paru en 1852. Vous savez, c'était des grands historiens qui faisaient des choses vraiment très, très bien. Il y a tout un tome de documents qui sont tirés des archives de Venise et qui sont les décrets que le Conseil des 10 envoyait à Chypre. Donc on a vraiment ce qui se passe bien, toute l'influence de la Sérénissime sur Chypre. Alors voilà donc mes sources. Catherine embarque donc en septembre 1472, elle arrive à Chypre en novembre. On mettait 2 mois hein, pour aller à Chypre à ce moment-là. Elle est accueillie avec liesse par la population, elle est toujours accueillie avec liesse là où elle va. Hein. Et surtout par la colonie vénitienne, évidemment. Elle retrouve son oncle André à Cornaro. Le mariage a lieu en grande pompe à la cathédrale Saint-Nicolas de Famagouste. La vie de Catherine à Nicosie, à Famagouste, est celle des femmes de son temps, faire des enfants et puis être en représentation, hein, c'est tout ce qu'on sait. Cependant, la situation de Catherine n'est pas facile. Elle est souvent seule au palais, car le roi est occupé par la chasse et par ses conquêtes féminines. Elle s'entoure de représentants de la colonie vénitienne, ses familiers, sa famille, son oncle, et tout un tas de diplomates espions qui sont arrivés avec elle, ça parce que Venise et les espions étaient très forts. Ensuite, l'entourage du roi est composé de Napolitains et de Catalans, donc les deux parties ne sont pas d'accord, hein. Il y a quand même des intrigues. Le roi lui-même intrigue contre Venise. Il avait donné son consentement au mariage de sa fille bâtarde avec le fils bâtard de Naples. Il avait aussi interdit le port de Famagouste, qui est plus important, à 2 galères de Venise chargées de munitions pour préparer la lutte contre les Ottomans. Venise commence à interférer dans le gouvernement de l'île. Catherine est enceinte. Tout le monde attend un héritier mâle, ce qui réglerait le problème de succession. Mais en juillet 73, c'est-à-dire à peine 1 an après son mariage, le roi tombe malade et meurt 3 jours après. Maladie étrange, qui a fait beaucoup gloser. Catherine se retrouve donc reine à 19 ans. Elle est assistée d'un conseil où se trouvent des Vénitiens, son oncle Andrea Cornaro, ainsi que d'anciens partisans du roi, des Napolitains et des Espagnols, ce qui allait provoquer de multiples complications et des confrontations entre les deux parties. Charlotte continue à comploter, elle a envoyé des partisans pour prendre le port de Quérigna. Le complot est découvert, les envoyés sont anéantis, donc le complot est abandonné. Venise envoie l'amiral Mocenigo à Famagouste afin, avec ses galères, hein, Venise envoie toujours les galères bien armées pour parer à tout danger. L'amiral est aussi chargé de fortifier les ports. Alors voilà les remparts de Famagouste. Les fortifications, et vous voyez le lion de Venise. Hein? Alors, Catherina met au monde un garçon le 28 août 73. Le parrain est l'amiral Mocenigo, qui deviendra doge en 1474. On a un beau portrait de Bellini. L'amiral quitte l'île un peu plus tard, en laissant une garnison à Famagouste. Le conseil est de plus en plus hostile aux Vénitiens, qui se trouvent seuls et confrontés à une situation qui se dégrade. En effet, le 13 novembre 1473, un commando hostile débarque sur l'île, avec à sa tête des Napolitains, l'archevêque catalan de Nicosie. Ils veulent éliminer les Vénitiens de l'entourage de la reine et essayent de soulever la foule. Des bandes armées encerclent le palais, tuent le conseiller Paolo Zappa, entrent dans les appartements royaux, ils tuent Gabriele Gentile, le médecin de la reine, ils tuent aussi Andrea Cornaro et son neveu Marc Bembo. Catherine est confinée dans sa chambre, son enfant lui est enlevé, et la nuit se termine par un pillage du palais et de la ville. En définitive, on s'aperçoit que le peuple ne s'est pas soulevé. Au conseil de régence, dont il n'y a plus que des Napolitains et des Catalans, Catherine est prisonnière, parce qu'on voulait la faire marier avec plein de gens pour enlever Venise, évidemment, pour éliminer Venise. Elle repousse toutes les propositions de mariage pour elle-même et pour son fils qui a 2 mois, hein, 3 mois là. Bon, enfin, c'était comme ça dans le temps. Dans le gouvernement, des accords se font jour. Les uns veulent éliminer Catherine, mais carrément la tuer. Les autres veulent négocier avec Venise. Pendant ce temps-là, Mocenigo envoie ses galères. Et les négociations commencent. Mais comme ça dure un peu trop longtemps, les troupes vénitiennes débarquent, libèrent le palais et l'île devient officiellement sous la protection de Venise. Alors Boustronios décrit ça parce que vraiment ça l'a beaucoup bouleversé, il décrit ça vraiment très bien, mais il ne se rend pas compte de l'importance de la chose parce que maintenant l'île est vénitienne, hein, carrément. Alors donc Catherine n'est plus entourée que de Vénitiens qui s'emparent des terres des conjurés. La population de Chypre commence à trouver l'emprise de Venise un peu trop importante. Boustronios cite, mais sans insister, des revendications de paysans contre des exactions de propriétaires. La santé du fils de Catherine empire, il est sujet à des crises de malaria et il meurt 2 jours avant son premier anniversaire. Catherine a encore 15 ans à vivre à Chypre, à régner. Son règne est virtuel, évidemment, car la donne a changé. D'après le contrat de mariage, Chypre doit revenir à la République. Le conseil vénitien la surveille de plus en plus. Elle ne peut plus prendre aucune décision. Catherine vit entourée de ses familiers. Son simulacre d'autorité semble lui suffire, mais enfin, on n'a aucune preuve. Hein. Elle comble son peuple de bienfaits, pareil. Elle est très dépensière. Elle est toujours à court d'argent et ses conseillers vénitiens lui donnent le compte-goutte. Ça, on le sait parce qu'elle s'en plaint. On a une lettre d'elle à la Sérénissime disant qu'elle est vraiment trop malheureuse, quoi. La situation extérieure ne s'améliorant pas, le doge fait la paix avec les Turcs en 79, Venise a subi encore des revers militaires. Je vais vous montrer, regardez un peu l'Empire ottoman, comme il s'est augmenté. Venise a perdu tous ses comptoirs en Grèce et elle est vraiment menacée dans les Balkans. Vous voyez, il ne reste plus que ça. Hein. Et puis là, un petit peu, et la Crète qui sera prise beaucoup plus tard. Donc, le Sénat multiplie les signes de sa mise à l'écart. On repeuple Chypre de sujets fidèles à Venise. Des soldats débarquent à Famagouste. Les écrits officiels ne le sont plus présentés. Pour échapper à la tutelle de Venise, ça c'est bizarre ça. Catherine semble envisager un mariage avec le fils du roi de Naples. Bah, le complot est tout de suite éventé par les espions, évidemment. Et Catherine est invitée à quitter l'île sans délai. Pratiquement, on lui dit, on la met dans une galère et puis on l'envoie. Hein. Alors son frère, Giorgio Cornaro, maintenant le chef de la famille, parce que le père Marco était mort, et il était promis à des hautes fonctions à Venise. Hein. La famille Cornaro a toujours eu des hautes fonctions dans le gouvernement de Venise. Vient la chercher en lui mettant en balance le mal qu'elle ferait à sa famille si elle refusait et la promesse de donner des terres. On lui promet de lui donner des terres en Vénétie et qu'elle garde son titre de reine de Chypre. Alors, en conclusion de son règne à Chypre, là, de ma première partie, on peut tirer quelques enseignements. Les seules images publiques que Catherine, comme reine de Chypre, proviennent de la numismatique. Attendez, ça, c'est, voyez, c'est le fameux tableau de Hayez que l'on connaît avec Giorgio Cornaro qui veut la persuader de partir. Voilà, c'est tout ce qu'on connaît de Catherine à Chypre, une pièce. Elle est là, en majesté, là, avec le sceptre, et puis je ne sais pas ce qu'il y a dans l'autre main, on voit mal. Sur le bord, on a Regina qui prie Veneta. Vous voyez déjà l'ambiguïté, Veneta. Voilà, on n'a aucun portrait de Catherine à Chypre. On n'a aucune description, même des descriptions littéraires, si vous voulez. On ne sait pas. On ne sait pas comment elle était. On ne sait pas si Catherine a imprimé une marque personnelle à son gouvernement. Boustronios dit qu'elle nomme les officiers et désigne des ambassadeurs et résidents à Famagouste communiquent par message avec les autorités de Nicosie. Mais les documents publiés par Mas de Latrée révèlent que ce sont des ordres de Venise qui sont transmis, que les nominations faites par la reine sont défaites par le Conseil des Dix. Boustronium suggère que Catherine est aimée du peuple, car c'est le dernier rempart contre l'emprise de Venise. Et lorsque la reine quitte l'île en larmes, devant le peuple effondré, ça c'est Boustronios qui le dit, c'est pour lui le constat d'un échec. Chypre, à l'époque de Catherine, continue un lent mouvement de déclin, dû aux périodes troublées et à la pression de Venise. En résumé, la figure de Catherine se laisse difficilement percevoir dans l'historiographie locale. On ne sait pas si l'image de Catherine correspond à la réalité ou si elle commence à se détacher de la véracité pour entrer dans la légende de la reine, jeune veuve sans défense, esclave de Venise, ce que l'on dira plus tard. Alors donc, Catherine rentre à Asolo. Elle quitte l'île en février 1489. Après son abdication officielle, l'île devient vénitienne. Le Sénat lui a promis de garder son titre de reine de Chypre, de Jérusalem et d'Arménie, plus 8000 ducats de rente annuelle et le don de la seigneurie d'Asolo. Venise lui fait un accueil triomphal, évidemment, on a toujours sorti le Bucentaure. Toujours, ça c'est un tableau du musée Correr, c'est Alienze, c'est du 16e siècle. Celui-là, c'est un tableau du XVIIe siècle qui est à l'Académie, toujours avec... Et voilà, alors, Asolo, par rapport à Venise, vous voyez, c'est pas très loin. On y est allé d'ailleurs à Asolo, hein, de certaines personnes, là, on se rappelle. Et par rapport à Trévise, c'est là. Donc, alors, là, je vais vous parler plus tard d'Altivole, c'est sa maison de campagne. Et Piondino d'Ese, c'est la villa palladienne de la famille Cornaro. Je vous parlerai de ces trois. Alors, Asolo. Donc, Asolo était vénitienne depuis 1393. Le château qui avait subi des constructions et des constructions et appartenu à différents potentats. Donc, elle a appartenu à Venise. Quand Venise a pris donc, la ville et la région d'Asolo, elle avait refait le château. Mais enfin, vous voyez ce qu'il en reste, ça c'est des photos actuelles, évidemment. Donc, la mort, je vous parle du château un petit peu. À la mort de Catherine, le bâtiment devient le siège du prétoire. Et au cours des siècles, le château perdit de l'importance. La tour, devenue un moulin à vent. En 1798, la grande salle que Catherine avait construite est devenue un théâtre. Ce théâtre fut démonté en 1930 et est devenu un cinéma. Et ce théâtre a été racheté par les Américains et il a été remonté à Sarasota, en Floride. Il est devenu, voyez le joli théâtre, c'est un joli, on dirait la Fenice. Et alors ce théâtre est consacré à des pièces en relation avec Catherine Cornaro. Il y a tout un courant de Catherine Cornaro aux États-Unis en Floride. Là, vous voyez, là, c'est une dame qui est en... Et le théâtre, donc, après le cinéma, on a fait un théâtre Eleonora XII, puisque XII a habité à Asolo, n'est-ce pas? Alors, il y a un joli petit théâtre en ce moment. Et donc, dans le château actuel, alors le théâtre, il est là. Et là, il y a un restaurant. Voilà ce que le château d'Asolo à l'époque actuelle. Alors donc, Catherine est accueillie avec joie, évidemment, avec liesse par les habitants d'Asolo. Là, on a un tableau de Girolamo Bassano. Le gouverneur d'Asolo donne les clés à Catherine. Bon, elle arrive dans ce château médiéval qui est vraiment différent de tous les beaux palais de Venise et... Les Cornaro aussi avaient un palais à Murlano. Et d'ailleurs, la légende dit qu'elle y avait accueilli Isabelle et Béatrice d'Este qui partaient en pèlerinage à Rome. Bon, enfin, ça, c'est peut-être pas vrai. Donc, Catherine, dans ce château, a essayé de faire des transformations. Elle a fait une grande salle de réception pour faire des réceptions, pour faire des fêtes. Je vais vous ressortir le château. Alors la salle, elle était là, à la place du théâtre, là où il y a le théâtre. Au premier étage, c'était le piano nobilé avec des salons et puis des chambres. Et en bas, c'était les communs, les cuisines, il y avait une chapelle et puis des pièces à vivre. Voilà le château d'Asolo. Donc elle a vécu, elle a joué un rôle de souveraine là, Asolo. Elle a distribué des subsides à ses sujets. Elle avait fait connaissance d'un prédicateur franciscain qui s'appelait Bernardino de Feltre, qui était un défenseur des pauvres. Et elle a fondé avec lui à Asolo un mont de piété. Je crois que c'est un des premiers monts de piété d'Italie. C'est peut-être le premier mont de piété même. Dans la cathédrale d'Asolo, elle a donné des fonds baptismaux. Et sur ces fonds baptismaux, oh là là, là, la photo elle est moche, hein, non?
Ça va là?
Ah oui, non, là on la voit bien. Il y a les armes de Catherine. Là, avec la couronne et puis les armes de Catherine. En 1490, son frère lui cède des terres à Altivolé, près d'Asolo. Elle y fait construire une vaste demeure que le poète Pietro Bembo baptisa il Barco della Regina, Barco signifiant paradis, lieu idyllique. Alors le Barco, voilà sa structure. Le Barco, il y avait 50 hectares, hein, à peu près, ça fait pas mal. Il y avait trois murailles, trois enceintes. La première, la deuxième et la troisième. La première enceinte faisait quand même 3 km de long. Les fouilles archéologiques, c'est la Fondation Benetton qui a fait des fouilles archéologiques dans les années 1980-90. Et elle a à peu près retrouvé la situation des enceintes. Alors donc, la première enceinte se trouvait des étangs. Vous voyez, il y avait une tour pigeonnière avec un étang. Et on pensait qu'il y avait des bois, que c'était fait pour la chasse. Il y avait pas mal d'animaux et puis il y avait des grandes chasses. La deuxième enceinte, de côté, à l'est et à l'ouest, L'un servait d'habitation et l'autre de grenier, puisque c'était une, comment dirais-je, une ferme, enfin. Une... Oui. Oui, un peu comme les villas palladianes. C'était une des premières villas palladianes. Enfin, c'était pas Palladio qui l'a fait. Donc, alors, il y avait donc sur cette muraille, il y avait des tours. Hein, c'était, elle était fortifiée. Sur le côté sud, il y avait une fresque représentant Catherine à la chasse qui a été peinte, soi-disant, par Giorgione. Mais ça, je crois qu'on a des preuves, mais enfin. Comme il ne reste plus rien, on ne peut pas savoir. Et sur le côté oriental, là, il reste des choses. Voilà. Là, je vais vous parler du barco. Alors, donc, c'était le côté oriental. Ça faisait 210 mètres de long. Il en reste à peu près 120 mètres. Alors, au départ, il y avait une écurie. Une écurie, là. Avec beaucoup de chevaux, parce qu'il y avait une troupe, enfin, puis il y avait beaucoup de chevaux. Après, il y avait une chapelle. Alors, la chapelle, la voilà. La chapelle, c'était une chapelle à nef unique. Elle a été restaurée, tout ça a été beaucoup restauré. Hein. Elle a été restaurée en 1945, on a fait une abside et deux sacristies pour la consolider. À l'intérieur, il y avait des fresques. Alors donc les fresques, c'était des vases de fleurs avec des anges qui soutiennent des médaillons de saints. Et il y a trois grands portraits de prophètes. Voilà. Là, ça a été restauré tout ça parce qu'évidemment, quoiqu'à l'intérieur, les fresques devaient être moins abîmées. Ensuite, il y avait une grande porte. Alors cette porte, c'était un passage entre la deuxième enceinte et le parc. On pense que c'était une entrée, une sorte d'entrée pour accueillir les visiteurs. Il y avait des fresques sur les murs. On a retrouvé les armes de Catherine, avec la croix de Jérusalem, les trois royaumes, Jérusalem, Chypre et l'Arménie, et le glaive, la confrérie du glaive. Ensuite, après la porte, il y avait une loggia. La loggia. Alors là, loggia faisait 16 mètres de long sur 10 mètres. Il y avait 5 fenêtres avec des chapiteaux du côté de la deuxième enceinte et du côté du parc, des fenêtres avec 2 fenêtres, une fenêtre biforée. Il y avait des fresques et il y avait une espèce d'arche peinte avec les armes de Catherine. Toujours les armes et vous voyez les fresques là. Ensuite, après la loggia, il y avait, voilà, alors donc après il y avait une salle du pan, c'est-à-dire qu'il y avait une fresque avec un pan au milieu d'une prairie, il y avait les bâtiments administratifs et ensuite il y avait une caserne pour la troupe, que sur le plan c'est marqué la Fanteria, c'est une caserne. Mais je crois qu'il y a eu un incendie en 1979 et je crois que le bout du bâtiment là a disparu. Alors toute cette seconde enceinte devait être couverte de fresques. D'ailleurs, vous en voyez un peu. On a fait une reconstitution des fresques. Alors il y avait en haut une fresque avec des animaux fantastiques. Une deuxième fresque qui servait de soubassement avec aussi des animaux fantastiques. Là c'était des cerfs, là ce sont des chevaux. Là, il y avait des octogones qui ressemblaient à du marbre, et puis des colonnes, et entre les colonnes, donc, il y avait des peintures. Alors là, voilà ce qui reste. Sur la chapelle, il reste deux saints et un Saint-Georges. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, le Saint-Georges, c'est, on voit un cheval, il faut me croire, hein, parce que, voilà. Voilà les saints, là. Alors, vous voyez, il reste quand même des traces. Ensuite, autour de la porte, il y avait un Saint Jérôme pénitent et de l'autre côté, il y avait Apollon et Daphné. Voilà, qui est en train de se transformer en laurier. Et puis c'est Apollon là. Vous voyez, c'est un mélange de religion et de mythologie. On est vraiment à la limite de la Renaissance, enfin voilà. Sur une photo ancienne, ça c'est une photo de 1900. On les voit beaucoup mieux, les fresques. Hein. Regardez là, on voit bien le Saint-Jérôme, là, les saints. On voit bien la fresque qui est tout du long, là. et puis les octogones que l'on voit plus maintenant là. La troisième enceinte a fait couler beaucoup d'encre, parce que vous voyez dans cette troisième enceinte il y a un magnifique palais. Ce palais, on l'a jamais retrouvé. Les fouilles de Benton, on n'a rien trouvé. On a trouvé le mur avec trois portes, on a trouvé des fondations de murs, de grands murs comme ça, mais à l'intérieur, rien du tout. Alors, on pense, au musée de Castelfranco, il y a une reconstitution de la seconde enceinte. Vous voyez, ils ont fait une maquette. On voit la loggia, là, et puis les bâtiments. Alors, donc, à l'intérieur, il y aurait un jardin avec une fontaine. Et la troisième enceinte, eh ben, ça serait un petit jardin privé de Catherine. Enfin, c'est ce qu'on pense, hein, mais on n'a aucune preuve. Hein. Voilà, on a fait une reconstitution comme ça. Alors, en résumé, le Barco, c'est une résidence mi-agricole, mi-résidence de loisirs. Ça précède les villas vénitiennes de Palladio, hein, parce que ça a été fait en 1490. Les villas palladiennes, c'est autour de 1550. Hein. La fonction principale du Barco semble être celle d'un lieu de loisirs et de représentation où Catherine pouvait accueillir ses hôtes dans un cadre luxueux, dans un paysage naturel agréable, pour les promenades, les conversations, enfin on peut imaginer tout ce qu'on veut. Hein. Le parc, avec sa grande étendue, pouvait servir de réserve cinégétique. Alors les artistes du Barco, on a très peu de renseignements sur les artistes qui travaillaient au Barco. On a cité Pietro Lugato comme maître d'œuvre et Francesco Grazioli comme architecte de Catherine. C'était des gens d'Azzolo, ces deux personnes. À part le tableau de Catherine à la chasse sur le mur d'enceinte, on n'a pas de documents certains. Il se peut que des artistes fresquissent aient travaillé dans le style de Giorgione. D'autres artistes ont fréquenté le Barco, Leonardo da Verona, Andrea di Murano, Girolamo di Treviso qui aurait peint le Saint Jérôme repentant. Lorenzo Lotto a également fréquenté la cour de Catherine. Dans la cathédrale d'Azzolo, dans un tableau d'autel représentant l'Assomption de la Vierge, il aurait représenté le portrait de Catherine âgée. Et comme portraitiste de la reine, on a cité Gentile Bellini, Titien et Véronèse. On a pu ainsi définir une ambiance de cour artistique autour de la reine. Lors de la guerre de la ligne de Cambrai en 1509, le Barco fut dévasté par les troupes de Charles Quint. Catherine avait d'ailleurs dû se réfugier à Venise à ce moment-là. Après sa mort, elle avait légué le Barco à son frère, qui le restaura pour le donner à ses fils, qui étaient tous deux cardinaux. À partir du XVIe siècle, il fut sur son déclin et devint une exploitation agricole. Alors là, vous avez une photo qui date de, ben, je ne sais pas, moi je dirais un petit peu avant la guerre ou un petit peu après. Hein. Et alors c'est très curieux, vous voyez, c'est une grange à paille, hein. La loggia. Mais vous voyez comme les fresques sont belles, on voit même des peintures à l'intérieur des arches. Alors que maintenant, on ne voit plus rien. Ça s'est vraiment beaucoup dégradé. Hein. Donc, ça passait entre divers propriétaires qui ont abattu les murs, les tours. Évidemment, pour cultiver, il ne fallait pas toutes ces enceintes, hein, ça gênait. Alors, le Barco a été acheté en 1976 par le ministère des Beaux-Arts. Et c'est eux qui ont fait toutes les rénovations, qui ont repeint les fresques, enfin. Et en 2009, c'est devenu une propriété privée. Alors là, il paraît que ça continue à s'abîmer. Alors, on va quand même vous parler de la cour de Catherine, puisque c'est sa deuxième vie. Alors donc, Catherine est arrivée à Azzolo avec un groupe de personnes importantes, comportant des membres de sa famille, des demoiselles d'honneur, de la domesticité qui se logeaient dans le château et dans la ville. Elle y donne des réceptions, des grandes fêtes, et reçoit tous les seigneurs des environs. On y rencontre des poètes, Bartolomeo Zenco, Andrea Navagero. C'était un poète et c'était un diplomate. D'ailleurs, il est mort à Blois, à la cour de France. Et c'est lui qui a fait l'oraison funèbre de Catrina. Et Giovanni d'Arezzo, c'était un familier des Cornaro qui a écrit des poèmes et des chansons. Mais le plus célèbre des autres du Barco fut sans conteste Pietro Bembo. Pietro Bembo est né en 1470 d'une grande famille de Venise apparentée à la famille Cornaro. Il fut fait cardinal par Paul III en 1539. Écrivain, grammairien, traducteur et humaniste, il contribue à diffuser le modèle poétique de Pétrarque avec la contribution de l'imprimeur Aldo Manuzio. Il fit connaître de nombreux textes grecs. Un portrait est attribué à Giovanni Bellini et ce serait Pietro Bembo au moment où il était à Solo. Il était beau, hein, c'est un beau garçon. Mais le tableau de Titien est beaucoup plus connu quand il était cardinal. Alors, il composa l'Iasolini entre 1497 et 1502. C'est un dialogue en trois livres qui situe à Asolo, à la cour de Catherine. Cet ouvrage traite d'un dialogue sur l'amour dans l'ambiance du néoplatonisme. L'œuvre met en scène trois gentilshommes vénitiens et trois jeunes filles. Le thème des discussions est l'amour, à propos duquel les personnages présentent des aspects douloureux puis joyeux pour conclure que le vrai amour est transcendant et non physique. La figure de Catherine transparaît dans la description de la cour et du climat idyllique qui y règne. Je vais vous citer le début des Asolini. Asolo, beau et agréable château situé sur la dernière chaîne de nos Alpes et dominant Trévise, appartient à la reine de Chypre. En septembre dernier, étant allée là-bas pour se distraire, elle maria une de ses demoiselles de cour. Elle ordonna une belle et importante fête de mariage et invita tous les hommes les plus honorables des régions voisines et de Venise ainsi que leurs épouses. Ce ne furent que banquets magnifiques, musique, chant, danse, jour après jour, pour le plus grand plaisir de tous. Alors donc les protagonistes vont ensuite dans un jardin merveilleux, dont la description serait d'après certaines sources celle du Barco. C'était un jardin charmant et de merveilleuse beauté. Après une belle pergola de vignes qui le divisait en croix, le sentier le parcourait, bordé d'un côté de buissons de genévriers et de l'autre de lauriers montant jusqu'au ciel, le long d'un mur laissant apercevoir deux fenêtres de marbre. Le jardin se termine par un pré dont l'herbe est constellée de fleurs de multiples couleurs. À l'ombre d'un bosquet est une magnifique fontaine creusée dans le rocher et magnifiquement sculptée, de laquelle sortait une eau fraîche et pure qui s'écoulait ensuite par des rigoles de marbre qui irriguaient tout le jardin. Cette description conventionnelle d'un jardin médiéval n'est pas à prendre au pied de la lettre, car elle ressemble fort au jardin que Boccace a décrit au début de la troisième journée du Décaméron. Si vous avez l'occasion de le lire, c'est exactement pareil. Les fouilles archéologiques, quand même, ont bien révélé dans la deuxième et troisième enceinte un système d'irrigation, et il reste une inscription d'une fontaine rédigée par Bembo, qui est maintenant à Zolo. Voilà, ça c'est une pierre de fontaine, je ne sais pas ce qu'il y a écrit, je n'ai pas regardé pas le temps. Au XIXe siècle, voilà comment se représentait la cour de Catherine. C'est un tableau d'un peintre vénitien qui était maintenant en Angleterre. Alors on a Catherine entourée de ses artistes. Alors parlons de choses un peu plus tristes, je vais vous parler de la fin de la vie de Catherine. Alors la santé de Catherine se dégrade, elle a beaucoup grossi comme vous avez pu voir. Elle a fait une kéra à Banau Thermé sans beaucoup de résultats. Après la mort de sa mère, en 1501, elle entre dans une période d'austérité et de piété, distribuant sa fortune en œuvres pieuses pour ses sujets d'Asolo et pour le clergé vénitien. L'atmosphère du Barco devient plus sérieuse et plus dévote. Sa cour se disperse. Pietro Bembo partit à la cour de Ferrare chez Lucrèce Borgia, dont il tomba amoureux. Son ouvrage, L'Iasolini, paru en 1505 chez Aldo Manuzio, fut dédié non pas à Catherine, mais à Lucrèce. Catherine passa sa dernière année à Venise, dans le palais de San Cassiano, puisque les troupes de Charles Quint occupaient la province d'Asolo. Catherine fait son testament, légua tous ses biens à son frère, et elle mourut à Venise, dans le palais familial, le 10 juillet 1510. Alors, elle est morte dans le palais. Son corps fut déposé dans l'église de San Cassiano. Ce jour-là, il y a eu une grande tempête et le lendemain, elle a été enterrée dans l'église des Sentiers Apostoliques. Et il y avait tellement de monde à son enterrement qu'il a fallu faire un pont de bateau pour traverser le canal. À la fin du 7e siècle, donc elle a été déposée dans la chapelle des Cornaro au Sentier Apostoli. Et à la fin du 6e siècle, ses restes ont été transférés à San Salvador. Alors là, je vais vous montrer les églises. Voilà San Cassiano. Voilà les Sentiers Apostoli avec le tombeau des Cornaro. Là, c'est le tombeau de Marco, son père, et le tombeau de Giorgio, son frère. Et voilà l'église de San Salvador et le monument, le tombeau de Catherine. Et dans le tombeau de Catherine, il y a un bas-relief montrant Catherine donnant sa couronne aux doges. Et voilà sa pierre tombale. Alors j'ai fait une troisième partie, que je ne l'ai pas appelée la troisième vie de Catherine, puisque Catherine est morte. Je l'ai appelée le mythe. Alors la famille Cornaro, après la mort de Catherine, pour augmenter la gloire de la famille, se servit de la renommée de la reine de Chypre. Déjà, ses contemporains l'ont loué, comme le prouvent certaines œuvres écrites en son honneur, des petits poèmes biographiques. Ses écrits ayant une fonction de louange présentent une version altérée des faits, plus proche de la fantaisie que de la réalité. On peut citer quelques textes, l'histoire de Catherine Cornaro, reine de Chypre, écrite par Colbert Taldo, de 1586 à 92, donc c'est déjà près de, pas tout à fait un siècle après sa mort, mais presque. C'était le petit-fils d'un habitant d'Azolo qui avait vécu au contact de la cour de Catherine. Donc il s'est servi des notes de son parent, de son grand-père, et des sources chypriotes de Postrounios. Mais alors, il a écrit une biographie complètement fantaisiste, où il se trompe dans les dates, il invente un deuxième enfant à Catherine, il a fait un épisode des portraits en disant qu'on avait donné un portrait à Lusignan, qu'il était tombé amoureux tellement elle était belle. Enfin, vous voyez, c'était vraiment le... Ça se trouve dans les romans courtois, mais ça se trouve pas dans la réalité, ça. Alors, un autre document, c'est l'histoire de Venise de Pietro Bembo. Il a paru en 1530. Alors, l'histoire de Venise, c'est-à-dire qu'il parle juste de Catherine pour l'année 1488, quand elle a quitté Chypre. Et il invente le discours de Giorgio Cornaro lorsqu'il la décide à partir. Et ce discours, il est ressorti dans toutes les biographies successives. Donc, dans son histoire de Venise, il met plus Venise, la puissance de Venise et la gloire de Venise, plus que les vertus de Catherine. Alors, il y a des textes qui célèbrent la beauté de Catherine sans jamais l'avoir vue. Piero Lazzarini a écrit un petit poème à l'occasion du voyage que fit Catherine à Brescia en 1497, où elle est allée voir son frère, où elle a reçu un accueil triomphal, évidemment. Et il compare les vertus de Catherine à des pierres précieuses. Enfin, vous voyez un peu le genre. Alors, Giambattista Liliani a composé un petit poème à la louange d'Azolo et de la reine, mais il parle beaucoup plus d'Azolo que de la reine. Et Giovanni d'Arezzo a écrit quelques chansons pour Catherine. Alors, les portraits de Catherine ont aussi participé à sa légende. On a le portrait du miracle de la croix de Gentile Bellini. Vous avez Catherine qui est ici. Là, dans le tableau, elle est là. Je vous en ai fait un autre petit détail parce qu'autour d'elle, il y a sa famille. Hein. On pense que c'est sa famille, ses dames d'honneur, et derrière, ses parents. On a dit qu'il y avait Pietro Bembo. Est-ce que c'est celui-là? Je ne sais pas. Et il y a le portrait, ça c'est le portrait qui est à l'Académie, et ça c'est le portrait de Catherine qui est à Budapest, qui a été fait aussi par Gentile Bellini. Il est moins retouché que l'autre portrait. Hein. On pense que c'est un portrait pour la famille, que ce n'était pas un portrait public celui-là. Il y a le tableau de Lorenzo Lotto, qui est de l'Assomption, on l'a vu, hein, qui est dans la cathédrale d'Azolo. Il est entre Saint-Antoine-l'Abbé et Saint-Louis de Toulouse. Alors voilà le portrait de Catherine en Sainte Vierge. Mais elle est âgée, hein, on voit bien que c'est une femme âgée. On a dit que c'était un cryptoportrait. On a ensuite un dessin de Dürer, qui certains historiens d'art disent que c'est une copie d'un portrait de Giovanni Bellini qui est perdu. C'est un dessin qui était à Brême et qui a disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'après Vasari, Jacopo Bellini aurait peint un portrait de Catherine Jeanne en compagnie de son frère. La reine devait alors ensuite à Giorgione, on attribue un portrait perdu de la reine pendant la période d'Asolo que Vasari aurait vu dans la maison de son neveu, Giovanni Corner. Sur la base de cette note, on peut inférer la présence de Giorgione à Asolo. Ensuite, au XVIe siècle, ça c'était pendant la vie de Catherine, au XVIe siècle, on a ce portrait. Je l'ai marqué de l'atelier de Dürer, c'est celui qui est aux offices. Il a beaucoup fait couler d'encre, hein, celui-là aussi, parce qu'il y a un auteur américain qui a dit qu'il avait été commencé par Giorgione, qu'il a été fini par Titien. Mais ce qui est très curieux, c'est que Catherine est en oriental, en turc. Elle a un habit oriental, elle a cette coiffe orientale. Voilà, c'est bizarre. Il y a beaucoup d'études là-dessus, mais on ne sait pas. Alors, on se trouve ensuite des peintures du XVIe siècle qui s'appuient sur le prototype de Titien, ça c'est pareil, cité par Carlo Ridolfi, qui a écrit La vie des peintres vénitiens à la manière de Vasari. Et donc, pour ce portrait, pour ce tableau, il dit « La reine est en habit de veuve qui met en valeur la blancheur de son teint. » Voilà ce qu'il dit comme commentaire. Et à partir de ce tableau, on a plein de tableaux. Ça, c'est celui du musée de Nicosie, plein de copies. Ça, c'est celui de Hanovre. Il n'est pas beau parce qu'il est en noir et blanc. Hein. Je n'ai pas trouvé de portrait en couleur. Mais enfin, c'est exactement le même. Hein. Et il y a le portrait du musée d'Asolo. Elle a toujours ce petit bavoir, là. Enfin voilà, ça c'est une deuxième série de portraits de Catherine au XVIe siècle. Et dans la villa palladienne de la famille Cornaro, que vous connaissez aussi, il y a dans la grande salle une statue de Catherine, jeune et belle. Regardez comme elle est belle. Elle est belle, hein? C'est Camillo Mariani qui a fait cette statue. Camillo Mariani qui a fait le sculpteur. Eh bien, la villa palladienne a été faite en 1553. Au 16e. Au 18e, dans le palais Corner de la Regina, donc qui a été fait au 18e, on a toute une salle avec des fresques avec la vie de Catherine. Alors là, on a le couronnement de Catherine par son mari, par Jacques Lusignan. On a Catherine avec son fils. C'est la seule fois qu'on voit Catherine avec son fils qui était un bébé, là il n'est pas tout à fait un bébé. Hein. Vous avez vu comme elle a un petit visage rond, là, c'est vraiment, elle n'a pas du tout le même visage. Et on a Catherine qui rend sa couronne au doge. Alors après, Catherine, autour de 1840, est devenue une héroïne romantique. Alors Francisco Hayez donc, a fait ce fameux tableau. Alors vous voyez vraiment la lumière dramatique sur Catherine. Le Giorgio qui est comme la statue du commandeur, hein, qui ouvre la fenêtre et qui monte à Catherine, le drapeau vénitien qui flotte sur les fortifications de Nicosie. Alors ça c'est vraiment la pauvre héroïne romantique forcée à l'exil, mais alors l'exil de sa patrie c'est plus Venise maintenant, c'est Chypre. Hein. Vous voyez, c'est vraiment la pauvre femme, la pauvre héroïne romantique, comme Marie Stuart d'ailleurs, hein. C'était la mode de Marie Stuart, Donizetti aussi a fait un opéra Marie Stuart. Hein. Alors il y a toutes les touches orientales, la peau de léopard, et puis la petite servante noire, vous voyez derrière là, et puis alors les dames qui sont voilées là. Et vous savez, Ariana nous l'avait dit, que à ce moment-là, la peinture historique avait une fonction civique. Hein. C'était l'époque du Risorgimento. Et on peut dire que la pauvre Catherine figurait l'Italie sous le joug des Vénitiens. À ce moment-là, c'était vraiment l'époque du Risorgimento. Et en parlant des Vénitiens, il y a Hans Macquart qui a fait au musée du Belvédère à Vienne, Venise, rendant hommage à Catherine. Il avait été à Venise, il avait dû entendre parler de Catherine Cornaro, je ne sais pas, et il a... Mais alors, le pire ou le meilleur, c'est qu'il y a eu une floraison d'opéra avec pour sujet Catherine Cornaro. Alors le premier, ça a été une tragédie de Scribe, mise en musique par Alevi, sur un livret du marquis de Saint-Georges. Il a été créé à Paris le 22 décembre 41. On a encore les opéras de Franck-Paul Lachner à Vienne, Caterina, reine de Chypre. À Londres, Julius Bénédicte, la fiancée de Venise, et Michael William Balfe, la fille de Saint-Marc. Tout ça, ça c'était en 1844. Et en Italie, Giovanni Pacini, la reine de Chypre, à Turin, en 1846. Alors, le plus célèbre de tous, c'est l'opéra de Donizetti. Il a pour librettiste Giacomo Sacchero. Il est inspiré du livret français du marquis de Saint-Georges. L'opéra est présenté à Naples, au San Carlo, sans beaucoup de succès. Donizetti reprend l'opéra. Et c'est un succès à l'opéra de Parme. Alors, l'action se déroule à Venise et à Chypre. Caterina, alors je vais vous raconter, alors là, ça devient fille d'Andrea Cornaro, et un jeune Français, Gerardo de Coucy, s'aiment et vont se marier. Mais le mariage est annulé lorsque Mocenigo, l'ambassadeur de Venise, apporte un message des autorités indiquant que Lusigano, roi de Chypre, veut l'épouser. Les amants projettent de s'enfuir, Mocenigo fait de chantage. Après un certain nombre d'intrigues, où l'on découvre que Lusigano a été lentement empoisonné par Mocenigo, Gerardo rejoint les chevaliers de la Croix pour aider Lusigano à défendre Chypre contre les Vénitiens. Vous voyez un peu. Lusigano est mortellement blessé. En mourant, il confie son peuple à la garde de Catherine. Gerardo retourne ensuite à Chypre avec les chevaliers. L'opéra se conclut par un vibrant discours patriotique de Catherine dans le contexte du Risorgimento. Vous savez que cet opéra est toujours joué. Hein, à Montpellier, il a été donné en version de concert. C'est là. Et il a eu un grand succès. C'est en 2014. Voilà. Alors, à l'époque actuelle, donc, je ne vous parle pas des multiples biographies de Catherine, basées sur les biographies un peu bizarres. Hein. Mais les publications universitaires récentes que j'ai trouvées, dont je me suis inspirée, vous avez pu vous en rendre compte, tentent à minimiser le rôle de Catherine, son rôle politique à Chypre et son rôle de mécène à Assolo, en s'appuyant sur des documents historiques et non pas sur les documents hagiographiques récents. En conclusion, la vie de Catherine est une particularité dans ce Moyen-Âge finissant et dans le début de la Renaissance. Elle a vécu tout d'abord dans le chaos de Chypre, fait de violence, de vengeance, de répression. Puis elle s'est trouvée à Venise parmi les siens, se révélant peut-être à sa vraie nature, dame d'un petit royaume qu'elle dirigeait à sa guise. On a comparé son entourage à ceux des grandes mécènes de l'époque, Isabelle d'Estamentoux, Lucrèce Borgia à Ferrare ou Elisabeth Gonzague à Urbino. Sans toutefois avoir la renommée de ses cours, elle a contribué au développement de l'esprit de la Renaissance dans l'Italie du Nord. Elle a eu une renommée posthume qui s'est construite d'abord grâce à sa famille à Venise, puis à la faveur de la période romantique et qui curieusement dure encore. Voilà.
C'est vous.
Bien, merci Geneviève, c'était vraiment
C'était pas la même chose que l'autre conférence, parce que moi j'y avais pas été, j'étais embêtée. C'était différent. C'est pauvre Catherine. Dans le fond, on sait rien d'elle. Hein.
C'est ça qui est étonnant.
C'est ça qui est étonnant. C'est
que peut-être on puisse faire. En se basant sur les. Enfin, voilà ce que je peux constater. C'est qu'il y a des personnes qui en parlent selon les romans qui ont été écrits.
Ah ben évidemment.
Voilà, alors et puis, là on a l'impression que cette reine fut une personne ordinaire, qui a eu une vie ordinaire.
Ben, oui.
Et moi je trouve intéressant l'histoire du mythe construit, mais pourquoi?
Ben c'est la femme. Non, mais Venise a eu une reine et ils ont profité de cette reine. Moi, je pense que c'est ça. Hein.
C'est la mentalité vénitienne.
Ben oui, moi je crois. Oui. C'était une époque où Venise avait des tas de difficultés parce qu'elle était attaquée par tout le monde. Hein. Elle était attaquée par les Turcs, elle était attaquée par Charles Quint, elle était attaquée par les guerres. C'était l'époque des guerres d'Italie. Hein. Et elle avait besoin de.
D'avoir
une figure. C'est pour ça, je ne sais pas, les gens ne comprennent pas. Oui, puis la famille Cornaro était très influente. Elle était au conseil des 10. Giorgio Cornaro avait. Vous voyez, il avait deux fils qui sont devenus cardinaux. Enfin, puis après, vous avez vu la villa des Cornaro à la villa paladienne. Hein, c'est vraiment. C'était vraiment. Et ils ont profité de ce qu'ils avaient une reine. Voilà. Je crois, hein. Moi, j'en sais rien. Hein. Parce que tout ce que. Oui, on ne sait pas, mais d'ailleurs, tous les gens le disent. Hein, dans toutes les. Il y a eu un grand colloque à Venise en 2010 pour les 500 ans de Catherine, là, de la mort de Catherine. Et ils disaient tous que. Bah, qu'on savait rien, que, au point de vue. Enfin, qu'on savait rien, qu'il n'y avait pas grand-chose, quoi. Mais qu'on voyait Catherine en creux par rapport à Bembo, par rapport. C'est toujours que Catherine. Mais Bembo, il a été partout. Hein. Il était à Rome, il a été à Ferrare, il a été. C'était. Ils étaient un peu comme l'Arétin, hein. Ils allaient de cours en cours pour se faire mousser, quoi. Voilà. C'était une drôle de période. C'était intéressant d'ailleurs comme période, ce début de la Renaissance, comme ça, c'était. Et puis alors les tableaux, c'est pareil, hein. Il y a plein de tableaux qui ont disparu. C'est. Heureusement qu'il y a Vasari qui raconte des tas de choses pour savoir quels sont les tableaux qu'il y a eu. Mais à Chypre, il n'y a vraiment rien. Et alors à Nicosie, il y a une. Il y a des associations, Catherine Cornaro, hein, bien sûr. Ils essayent aussi d'avoir. Mais ils ne savent rien, hein, ils répètent les choses.
Mais peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose à dire d'elle, c'est pas comme Lucrèce Borgia ou Isabelle d'Este.
Remarquez, Lucrèce Borgia, il y a eu pas mal de légendes sur elle aussi, hein, parce que la pauvre, elle a.
Elle a eu une vie exceptionnelle.
Oui.
C'est pas le cas ici.
Elle aussi, parce que reine de Chypre, elle a quand même. Oui, enfin voilà. Voilà Catherine. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais.